première de couverture, Eddie Kackelbergs sur la première.
En première de couverture, dans une année fortement marquée par l'empereur, par Napoléon, par Waterloo, nous allons nous lancer dans une aventure un peu particulière. Parce que s'il est un autre personnage dont l'histoire a évidemment romantiquement pris la forme, c'est celle de l'Aiglon. L'Aiglon, le fils de l'empereur, Napoléon II, le duc de Reichstadt. Alors notre invité, Serge Hayat, qui publie « L'Empire en héritage », son roman aux éditions Alary, se demande si le duc est bien mort au moment où il est censé mourir à Vienne. Et si tel ne devait pas être le cas, qu'aurait-il bien pu faire à un moment donné pour recevoir finalement cet empire en héritage? Et on va voir que rien n'est simple dès lors que dans sa famille, un autre personnage par exemple semble plus emblématique et capable de ramasser l'affaire. On va aller de Vienne à Paris, de Paris à Sainte-Hélène, et ça n'est pas banal. Bonsoir Serge Hayat.
Bonsoir.
Alors la fiction permet tout. Vous allez évidemment au départ nous étonner un peu moins parce que vous nous décrivez des scènes connues, à savoir ce jeune duc de Reichstadt arraché à son père, emmené avec sa mère vers une cour inconnue, la cour de Vienne, où il est entre cajolé et méprisé. On le tient un peu à l'écart. Selon que son grand-père, l'empereur d'Autriche, l'aime ou que les principaux conseillers le détestent, il ne vit pas ça très très bien. Ça, ce sont des scènes plutôt réalistes.
Ah, c'est tout à fait la réalité. Tout le monde attendait le futur Napoléon II. Napoléon a même répudié Joséphine pour pouvoir avoir un héritier. On l'acclame, le monde lui est promis. Et puis, 5 ans plus tard, c'est l'exil. Napoléon s'en va et Marie-Louise, effectivement, rentre à la cour de son père. Sa vie est derrière elle. Elle a 23 ans. Et du coup, elle va repartir faire sa vie ailleurs. Elle va laisser son fils, donc l'héritier de Napoléon, prisonnier à Schönbrunn, dans la banlieue de Vienne. Et là, on va tout faire pour que ce gosse soit élevé comme un prince autrichien en lui cachant tout de son père, que du coup il va fantasmer comme un géant plus grand que nature, ça va le fasciner et l'écraser à la fois. Et il va vivre un peu prisonnier en n'ayant accès à aucune fonction politique. Donc tout ça, c'est la réalité. Et c'est à partir de là que moi, je lui invente un destin différent.
En même temps, ici, Marie-Louise, on y reviendra. Vous avez peut-être de la compassion, mais elle apparaît quand même comme définitivement déchue. C'est la mère qui ne prend plus vraiment attention et qui, à un certain moment, lâche prise. En parallèle, vous l'avez dit, le père fantasmé, Napoléon. François va devoir aller jusqu'à veiller à voler une clé dans votre roman, pour s'emparer dans une bibliothèque du palais, dans l'enfer, dans la partie interdite, des courriers et des publications officielles qui alors lui donnent l'impression, effectivement, sauf que ce qu'il ne se doute pas, c'est que s'il apparaît comme un géant, c'est aussi parce que Napoléon était un homme de com' extraordinaire.
Absolument. En fait, il ne se doute pas du tout de tout ce qu'a fait son père pour arriver là où il est arrivé. On lui cache tout de son père, ça c'est la réalité. Il essaye de grappiller des informations à droite et à gauche. Et effectivement, chaque bribe d'information, quand vous n'en avez que des petits morceaux et que vous avez une dizaine d'années, tout vous paraît énorme tout de suite. Le petit Aiglon, il est très différent de son père. Là où son père a ramassé la couronne dans un caniveau, comme il le dit lui-même, le petit Aiglon, il y a eu des vraies tentatives d'évasion du petit Aiglon qui ont toutes été censurées sauf une. Il y en a une qui est effectivement arrivée entre les mains de l'Aiglon. Et là, l'Aiglon, plutôt que de se dire « Tiens, le destin m'attend », il s'est dit « Mais moi, je ne suis pas un fuyard. Je ne vais pas quitter la cour de Vienne comme un prisonnier qui s'évade. Je veux être plébiscité en France. » Et donc, il a commencé à hésiter. Et à qui il est allé demander conseil ? À Metternich. Metternich va effectivement lui conseiller de ne pas le faire. Et il va avoir cette phrase très cruelle, Metternich, en disant « Si son père avait eu la même attitude que l'Aiglon, il serait encore général de brigade. »
Ce qui, jusque-là, donc, est étoffé par la réalité, bascule. Il va effectivement s'enfuir, convaincu par une femme qu'il est l'Aiglon espéré à Paris, que tout est prêt, qu'il y a urgence. Parce que ce qu'on ne lui cache pas ici dans votre début romanesque, c'est qu'il y a un cousin, hein, ce cher cousin, ah là là, le futur Napoléon III, Louis Napoléon, qui lui prépare et balise bien le terrain.
Exactement. Là, on commence à arriver au vrai sujet de mon roman. Qu'est-ce que c'est que d'être le fils de Napoléon ? Imaginez-vous, vous êtes à Schönbrunn, Vous habitez dans la chambre que Napoléon a habitée quelques jours quand il était vainqueur d'Austerlitz. Et vous savez que vous êtes dans la même chambre que celle de votre père, qui est un géant. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu. Vous savez qu'il a un destin exceptionnel et que vous-même, vous devriez avoir un destin exceptionnel. Donc vous êtes vraiment très fasciné et écrasé par tout ça. Vous décidez d'y aller. Vous rêvez d'un destin dont vous ne vous sentez pas forcément capable. Et quand vous arrivez, vous trouvez qu'un autre membre de votre famille...
Comme un coucou, il s'est glissé dans le nid.
Exactement. Comment vous réagissez si vous vous rendez compte que celui qui a les qualités du père, ce n'est pas forcément le fils, mais c'est peut-être le cousin?
Pour couvrir la fuite de l'aiglon que l'on découvre, on imagine son enterrement en disant qu'une maladie grave, contagieuse, oblige à refermer immédiatement les cercueils, bypassant tous les fastes et cérémoniaux, et de l'enterrer de nuit avec une Marie-Louise effondrée qui annonce un grand-père certes effondré mais qui doit tenir son rang. Mais en fait, on enterre un cercueil vide selon vous puisqu'il fuit.
Tout ce roman d'aventure est un gigantesque complot à multiples tiroirs. C'est bien mon propos initial, c'est vraiment de créer un roman d'aventure, de divertissement populaire. Et en fait, pour pouvoir créer ça, effectivement, il faut qu'à un moment donné, on puisse avoir la liberté de le faire voyager où on veut, et donc il faut le faire mourir, et c'est l'objet, effectivement, de mon prologue.
Puisqu'il est censé être mort, il ne peut pas exister, le gaillard. Alors le bougre, quand il arrive à Paris avec sa protectrice, le cousin ou membre des Carbonari, ça c'est aussi une réalité.
Tout à fait. En fait, Louis-Napoléon a toujours été un activiste. Il a œuvré en France. Alors en France, il était plutôt persona non grata, il était plutôt en Suisse. Mais Louis-Napoléon a toujours été un activiste.
Oui, de risque de forteresse en évasion, il en a eu, hein ?
Absolument. Et Louis-Napoléon, il a le problème inverse de l'aiglon. Lui, il admire son oncle et il n'admire pas ses parents.
Ce Louis-Napoléon méprise l'aiglon, mais il faut bien qu'à un certain moment, on en sorte. Comment mieux en sortir? Je fais court là. Hein. Sinon, d'abord, en découvrant quel est son peuple, et là, vous lui faites découvrir par le bas de la rangée, si j'ose dire. Arrivant sur place et devant fuir les risques, il se retrouve à s'amouracher d'une tenancière d'un petit bouge.
Donc l'aiglon, il se trouve transporté dans un complot qu'il dépasse complètement. En réalité, il n'est pas du tout préparé à ça. Il a vécu dans une cour très aseptisée et triste à Schönbrunn. Il se retrouve dans une espèce de chaudron bouillant, malodorant, hostile qu'est Paris. Et là, il perd juste les pédales, il n'est pas du tout à sa place. Il va se rendre compte, finalement, en vivant au plus près, dans l'anonymat, au plus près de gens du peuple, il va se rendre compte que finalement, il va vivre là les plus beaux jours de sa vie. Et ça, c'est aussi un aspect qui m'intéressait dans ce roman, c'est qu'on croit souvent avoir certains objectifs, et en fait, on croit seulement les désirer, puisqu'en réalité, ce sont des objectifs ou des désirs que d'autres projettent sur nous, et qu'en fait, on ne désire pas vraiment. Et on n'est pas tous les enfants d'un Napoléon, Dieu merci. Mais moi, je connais plein de gens autour de moi, et peut-être moi-même un peu, où au départ, dans notre vie, on nous a mis sur des traces qui n'étaient pas forcément celles qui nous intéressaient. Et là, on commence à courir après de faux objectifs. Plus tôt on se rend compte de ce que sont que les vrais objectifs et ce qu'on désire vraiment dans la vie, et mieux on se porte. C'est un peu cette quête de soi et d'affirmation de soi et d'acceptation de soi que j'ai créé pour François dans ce voyage initiatique.
Ce jeune François qui dès lors va découvrir le peuple, ses attentes contradictoires entre les monarchistes, les impériaux, ceux qui prennent part pour le cousin, ceux qui prennent part pour l'empereur mais qui n'y croient plus. Enfin bref, il va découvrir la réalité, se retrousser les manches, apprendre un boulot.
La vraie vie.
La vraie vie, il pourrait effectivement la vivre, cette vie-là, sauf que, hein, il s'amourache, je l'ai dit, de cette tenancière qui tient à lui, mais qui va surtout quelque part l'utiliser dès lors qu'elle sait, qu'elle découvre que son François, dont elle ignore à peu près tout de l'identité, veut se rendre à Sainte-Hélène.
Exactement. Alors en fait, c'était pour moi très important dans ce roman qu'il puisse y avoir une sorte de règlement de compte entre François et sa statue du commandeur. Napoléon, c'est un personnage secondaire de ce roman, mais il est omniprésent partout, depuis la première à la dernière page. On ne le voit vraiment qu'à la fin. Et c'était pour moi extrêmement important qu'il y ait un choc entre François et son père, puisque c'est le seul moyen qu'il a de se libérer et de vivre sa vraie vie. Et donc pour moi, c'était très important qu'à un moment donné, il n'ait plus d'autre choix que d'aller régler ses problèmes là où se trouve la solution, c'est-à-dire à Sainte-Hélène.
Ouais, sauf que la fameuse égérie ou nouvelle égérie de François, elle, en fait, c'est Charlotte Corday, hein, parce qu'elle voit Marat dans Napoléon et elle se dit, allez hop, j'embarque, je fais la traversée avec mon François, parce que dès que j'arriverai à Longwood, pan, je lui plante le couteau.
Ben, en fait, c'est souvent comme ça, des amours romanesques un peu impossibles. On s'amourache de quelqu'un qui a des fondamentaux qui sont totalement opposés à ce que vous êtes. Et donc voilà, bien sûr, on crée cette dualité. Mais c'était aussi important pour moi qu'ils aillent à Sainte-Hélène, parce que Sainte-Hélène, c'est quelque chose. Moi, j'y suis allé. En fait, c'est très compliqué d'y aller, parce que Sainte-Hélène, c'est au milieu d'une ligne Rio-Le Cap, perdue au milieu de l'Atlantique Sud. Auparavant, c'était une île qui était très fréquentée, parce qu'elle était sur le retour de la route des Indes. Donc, vous aviez des bateaux qui passaient par le Cap, qui faisaient escale à Sainte-Hélène et qui remontaient vers l'Europe. Aujourd'hui, le canal de Suez dispense les bateaux de faire ça. Et donc, du coup, pour aller à Sainte-Hélène, il faut vraiment le vouloir. Donc là, vous allez au Cap, et puis quand vous êtes au Cap, vous avez 5 jours et demi de bateau dans un isolement le plus total qui vous permet d'arriver à Sainte-Hélène. Et là, vous avez une vision au petit matin, quand vous arrivez, il fait encore nuit, et vous voyez d'un coup cette espèce de masse rocheuse toute noire qui surgit de nulle part, avec des nuages extrêmement lourds dessus. Puis vous vous approchez et vous voyez en fait que ce sont des falaises noires qui coulent à pic dans la mer parce que c'est une île volcanique. Et vous vous approchez, et là vous voyez une petite échancrure, c'est une espèce de petite langue de terre qui s'appelle Jamestown, qui est la capitale de cette île, qui est une espèce de petite langue de terre étranglée entre deux massifs montagneux sur lesquels vous avez des forteresses et des canons hérissés, parce que cette île, elle était stratégiquement importante pour la Compagnie des Indes, bien avant Napoléon. Et là, vous ne pouvez pas débarquer sur Sainte-Hélène, parce que le port est trop petit et parce que les rouleaux sont trop importants, donc vous débarquez en chaloupe, comme au temps de Napoléon. Et vous arrivez sur cette île, et sur cette île, aujourd'hui encore, il n'y a pas de téléphone mobile, il y a très très peu d'internet, vous avez des routes caillouteuses d'un autre temps, et l'île en fait a très très peu bougé. Alors tout ça va basculer l'été prochain, puisqu'un aéroport a été construit et va entrer en service, et donc ce sera la fin du Royal Mail Ship Santa Elena, qui date quasiment de l'époque.
Quand eux, le couple François et sa Dulcinée arrivent sur l'île, c'est pas simple évidemment. Il faut progressivement s'y installer. Il finit par y révéler à l'entourage de son père sa véritable identité, enfin en faisant choix de l'un contre l'autre, parce que l'entourage du père, c'est la guerre du palais.
Alors ça, c'est la réalité pour le coup. Napoléon, quand il est parti à Sainte-Hélène, il est parti avec une petite cour. Et cette petite cour, c'est vraiment la cour de la dernière heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont toujours servi, comme le maréchal Bertrand, mais il y a également des aventuriers un peu mercenaires, ruinés, qui n'avaient plus d'avenir, comme Montholon, et qui décident de s'embarquer parce qu'ils espèrent une petite part d'héritage à la sortie. Et il emmène d'ailleurs sa femme, qui va allègrement louer, on va dire, à Napoléon. Et donc vous avez cette petite cour mesquine où chacun essaye de tirer la couverture à lui. Et Napoléon en jouit énormément, parce que Napoléon, il prend beaucoup de plaisir à monter les gens les uns contre les autres.
On ne révélera pas, si vous le voulez bien, Serge Hayat, ce qu'il en sera de la rencontre ou non, de la façon dont et de ce qui en sortira. Parce qu'il faut quand même que nous poussions d'abord celles et ceux qui nous écoutent à s'emparer de ce livre. Ce qui n'est pas moins tragique, c'est qu'au-delà de cette perspective romanesque que vous évoquez, le véritable destin de cet aiglon qui gisait bel et bien dans le cercueil, dans la crypte des Capucins à Vienne, n'a pas eu un destin moins féroce, parce que, objet d'une convoitise, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une collaboration entre Vichy et Berlin, entre Hitler et Pétain, que ce corps sera rapatrié et, pour le coup, de nuit, amené aux Invalides, où il se trouve, certes maintenant, mais proche du cercueil du père, mais toujours pas dans les bras du père. C'est un peu son destin.
En fait, c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça, parce que si vous allez aux Invalides et que vous allez voir le tombeau de Napoléon, bon, au centre, vous avez l'énorme tombeau de Napoléon, et puis vous avez des petites chambres sur le côté dans lesquelles il y a tel général, telle personnalité proche de Napoléon. Et puis une de ces petites chambres est consacrée à l'aiglon. Et vous avez là la tombe de l'aiglon. Qu'est-ce que c'est que la tombe de l'aiglon? C'est une dalle par terre où c'est marqué « roi de Rome » et on donne ses dates. Et au-dessus de cette dalle, vous avez une énorme statue de Napoléon en empereur romain. Ce qui fait que ce gosse, même mort,
est écrasé par le
père. On va encore l'écraser par son père. Et je trouve ça fou. Et donc c'est pour ça que je voulais lui rendre justice dans ce livre.
Sur la couverture, vous le verrez, c'est la figure exacte de ce jeune duc de Reichstadt, avec en toile de fond le Napoléon du pont d'Arcole et de la traversée des Alpes. Voilà, pour vous plonger dans la psychologie de manière effrénée. Moi, je n'ai pas quitté le livre, je vous le dis. Passez une nuit blanche. L'Empire en héritage, c'est le roman chez Alary Éditions, signé par Serge Hayat. Merci d'avoir été en première de couverture.
Merci.
Dernière de couverture.
Et en dernière de couverture dans cette émission, nous allons nous plonger dans ce qu'on peut appeler une des perles de notre patrimoine. Hein. Le fameux style Horta est incontestablement un des joyaux de la Belgique et reconnu comme tel. Et nous avons une spécialiste qui lui a consacré un très beau livre, comme on dit, mais vraiment très très beau, richement documenté. Michel Goslard est avec nous. Bonsoir Michel Goslard.
Bonsoir.
Alors c'est l'œuvre d'une passion votre livre. On sent que vous avez envie de nous communiquer quelque chose qui vous émeut.
Bien entendu, c'est une de mes passions. J'en ai deux. Il y a Yourcenar et puis il y a Victor Horta. Ce livre m'a pris d'ailleurs beaucoup de temps, une douzaine d'années. Au départ, je voulais faire une simple biographie, comme j'avais fait pour Marguerite Yourcenar. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'Horta lui-même se plaignait de ne pouvoir jamais faire l'inventaire complet de son œuvre architecturale. Donc
faut
je me suis dit. Il y en a quand même 150 à peu près, d'après ce que j'ai compté. Donc je me suis dit, je vais le faire. Donc j'ai ajouté un volet au livre qui était l'explication de ce que chaque œuvre architecturale est devenue depuis sa création jusqu'au moment où j'ai terminé le livre en 2011. J'étais aussi un peu agacée par le fait que trop de gens disaient qu'Horta avait abandonné l'art nouveau au début du siècle. Je trouvais que ce n'était pas du tout le cas parce qu'on comprenait mal l'art nouveau. C'était un amalgame entre un style extérieur, végétal, etc., les fleurs. On n'avait pas pris en compte l'élément essentiel pour Horta qui était le plan. Donc j'ai aussi voulu donner une définition de ce qu'était l'art nouveau pour Victor Horta.
Il y a aussi d'ailleurs une lumière Horta, hein, une lumière art nouveau, cette façon de travailler le verre en clarté, en semi-opaque, en translucide, éclairé par des verrières, la façon de faire pénétrer dans la maison l'élégance aussi raffinée de la lumière, c'est important.
Oui, c'est important et je pense que c'est essentiel chez Victor Horta parce que contrairement à d'autres architectes art nouveau de l'époque, même Ancard par exemple, Horta est le seul qui a modifié complètement l'organisation de son plan, l'organisation architecturale. Il ne faut pas oublier qu'on vivait à l'époque ce qu'on appelait le plan bruxellois, c'est-à-dire des maisons de très petites façades, des parcelles très très longues et on mettait les pièces en enfilade et au milieu, il y avait la pièce qu'on appelait
sombre.
D'ailleurs le cercueil, tellement il était sombre. Donc, qu'est-ce qu'Horta a fait? Il a d'abord enlevé l'escalier qui était toujours sur le mitoyen, la cage d'escalier, il n'aimait pas ce mot cage, et c'était vraiment une cage. Il a fait entrer la lumière dans la maison, il a donné à l'escalier un côté ornemental magistral, il a mis des verrières, il a mis des vitres, il a mis des vitraux, il a mis de la couleur, il a mis de l'espace, et on est par exemple très étonné quand on va dans l'hôtel Tassel, sa première construction Art Nouveau qu'a lancé l'Art Nouveau en Europe, de constater que sur cette toute petite façade, quand on entre, on a l'impression d'être dans un endroit gigantesque grâce à tous ces subterfuges qu'il a utilisés et la lumière y entre abondamment et c'est la grande réalisation d'Horta. Mais quand vous entrez par exemple dans la maison d'Ancard, vous retombez dans le plan bruxellois traditionnel des trois pièces en enfilade.
C'est quelqu'un qui a pensé la totalité de l'habitat. On a le plan, on a, je dirais, la brique, on a la lumière et le mobilier, le tout encastré ou non, mais en tout cas, il y a une élégance complète du lieu. Il a voulu vraiment maîtriser l'ensemble.
Horta fait un art total et d'ailleurs, quand vous parlez de brique, c'est déjà faux parce que lui, il n'utilisait que la pierre et c'était une des raisons pour lesquelles il était cher et un peu lent en travail parce que les carrières n'arrivaient pas toujours à faire ce qu'il voulait. Par exemple, pour l'hôtel Aubec, il a dû travailler 3 ans à faire des plans sur 4 faces pour chaque pierre de l'hôtel Aubec et comme la carrière n'y arrivait toujours pas, il a dû finalement demander à ses dessinateurs de faire des modèles en plâtre pour qu'on voit les 4 faces de la pierre pour toutes les pierres de l'hôtel Aubec. Je ne sais pas si vous imaginez.
C'est gigantesque.
Et si on imagine ce qu'on a détruit quand on sait ça, quoi. Et c'est vrai qu'Horta s'occupait de tout, de la décoration, de la tapisserie, du carrelage, de absolument de tout. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on peut expliquer qu'il y a eu à la fois des transformations et des destructions. Parce que le gros problème pour un propriétaire, la maison était tellement faite pour lui qu'il était à la fois difficile de la louer, difficile de la vendre à quelqu'un d'autre. Par exemple, à Solvay, même les pots de fleurs sont fixés dans les cheminées, ce qui fait qu'on ne peut pas le déplacer. On doit garder le pot de fleurs là où il est. Et je me souviens d'une réflexion du fils Aubec qui s'est empressé de vendre l'hôtel après la mort de ses parents, après la disparition de ses parents, il s'est empressé de vendre pour faire construire autre chose à la place, parce qu'il disait, chaque jour quand il rentrait chez lui, il disait « je rentre chez Horta ». Alors, est-ce qu'Horta a eu tout de suite la notoriété ? Certainement pas. Déjà, politiquement. Le pouvoir voulait imposer le style Renaissance flamande comme style officiel. Or, Horta n'est pas du tout du style Renaissance flamande. Léopold II était tout à fait opposé à Horta. Par exemple, Horta devait faire le pavillon du Congo pour l'exposition 1897. On l'a donné à cœur. Notamment la gare centrale. Tout le monde pense qu'on l'a donnée à Horta. C'est pas vrai. Elle avait été donnée à cœur. Et c'est quand à cœur est mort en 13 que Horta a récupéré la gare centrale. Horta avait du succès auprès de la population, enfin auprès de certains commanditaires, notamment auprès de la franc-maçonnerie dont il était. Et les gens râlaient qu'Horta fasse des trucs qui étaient magnifiques et qu'eux n'étaient pas capables de les faire. Il faut savoir que dans les années 50-60, quand on vendait un immeuble d'Horta, on vendait au prix du terrain parce qu'il était admis dès le départ qu'on allait détruire la maison d'Horta qui était dessus, parce que ça ne plaisait plus du tout. Et Horta a passé toute sa vie à lutter contre ça.
Est-ce que d'ailleurs l'architecture ou la pensée d'Horta est une pensée qui va jusqu'à s'inscrire dans un type de société idéale? Est-ce que vous pensez que Horta, à travers ce qu'il a bâti, construit, jusqu'aux détails que vous évoquiez tout à l'heure, avait imaginé une société dans laquelle son œuvre s'inscrivait?
Je crois d'abord qu'il savait lui-même qu'il n'aurait peut-être pas d'imitateur, parce qu'il travaillait comme un fou. Vous savez qu'Horta dormait 3 à 4 heures par nuit seulement. Il travaillait comme un fou, c'était pas très bien payé, il faut bien l'avouer. Et il savait qu'il ne ferait pas école, ça il le savait déjà. Maintenant, est-ce qu'il avait l'intention de faire une nouvelle société? Je pense que dans son esprit, il y avait de ça. Quand il a travaillé beaucoup pour la franc-maçonnerie, il avait affaire à des personnalités qui étaient en pleine évolution. C'était des avocats, des hommes politiques, c'était des nouveaux industriels et qui voulaient, par leur maison, donner une autre image de la société. Et si vous prenez par exemple Solvay, il ne faut quand même pas oublier que Solvay, à l'époque, a fait pas mal de choses pour les ouvriers. Solvay a lancé la mutuelle, il a lancé les congés payés, il a lancé des tas de choses, tout en maintenant, bien sûr, grâce à ça, ses ouvriers, et en maintenant le fait qu'il ne ferait pas grève, des choses comme ça, qu'il ne quitterait pas l'usine. Mais je veux dire qu'il avait quand même un plan social. Horta, on sait qu'il s'est beaucoup préoccupé, par exemple, de la domesticité. Avant, les domestiques, ils n'avaient pas de lumière dans leur sous-sol. Horta s'est arrangé pour qu'ils aient de la lumière. Mais d'un autre côté, je révèle quand même aussi dans mon livre qu'il est resté le bourgeois qu'il était au départ. On a par exemple constaté que dans sa villa de la Hulpe, où il y avait 12 chambres de bonne, le chauffage n'arrivait pas jusqu'aux chambres de bonne. On a constaté aussi que, je crois que c'est dans la maison d'Opchi, il avait fait une fenêtre dans la cuisine assez haute pour éviter que les domestiques ne soient distraits en regardant dehors et en regardant le paysage. Donc il était un peu entre les deux. Mais il ne faut quand même pas oublier que la maison du peuple, il a dit lui-même que ce serait un palais pour le peuple où il aurait la lumière et il aurait le confort qu'il n'a pas chez lui à la maison.
À celles et ceux qui nous écoutaient, vous savez que d'ici quelques jours, vous allez probablement pouvoir vous précipiter et aller rechercher cette très très belle édition que vous signez, Michel Gosselin, sur Victor Horta. Je l'ai dit, texte, mais aussi très très belle documentation reproduite.
C'est vrai.
Avec une impression de très grande qualité. Hein. Ça, il faut.
Oui, j'avoue que moi, je voulais un livre normal, comme une biographie. C'est Mercator qui a décidé de faire un beau livre de ça. Ouais, et il faut dire quand même une chose intéressante, par exemple pour les architectes, c'est que pour chaque maison d'Horta, il y a un plan. Ce qui est rarissime, on ne trouve jamais un plan de chaque chose, et c'est pourquoi ça a pris beaucoup de travail pour fabriquer le livre. Mais il faut quand même dire aux gens que le livre est toujours en librairie.
Eh bien voilà, alors vous allez en librairie, vous demandez le Victor Horta aux éditions Mercator, signé par Michel Gosselin. Vous allez voir, c'est une brique, hein, mais je vous assure que vous en avez pour des soirées et des soirées à vous plonger là-dedans, à découvrir. Moi, je le feuillette régulièrement parce qu'il y a en plus des reproductions superbes. Merci de nous avoir donné une page de notre patrimoine, Michel Gosselin.
Avec plaisir.
La première, le dimanche de 18h à 19h, première de couverture.